Les séminaires du Collège de France.
Merci beaucoup, Nalini, pour ton invitation. Donc, je vais parler d'un programme de recherche qui a commencé peut-être il y a 6 ans, qui est vraiment lié au fait que l'ergodicité quantique, en un sens fort, tel que Nalini en a souvent parlé, est devenue progressivement un outil en matrice aléatoire qui permet de montrer d'autres choses. Donc, on peut voir Je ne vais pas donner un exposé sur les choses les plus récentes, je vais vraiment donner une sorte d'aperçu de ce qui s'est passé sur la décennie à peu près qui vient de s'écouler sur ce sujet-là. Et il y aura une petite intersection avec l'exposé de Laszlo Erdős qui a eu lieu, je crois, en décembre dernier. Et on peut voir aussi certains concepts que je vais introduire comme une introduction peut-être à certaines choses que Nalini racontera quand elle passera à l'aléatoire sur les graphes déréguliers. Quel est le cadre exactement? Donc, on considérera toujours une matrice hermitienne. Notée H, de taille n par n. Dont les valeurs propres seront toujours lambda 1 jusqu'à lambda n, et les vecteurs propres associés psi 1 jusqu'à psi n, que je normalise dans L2. Et la chose à retenir de cet exposé, c'est la chose suivante. C'est que je veux expliquer le schéma d'implication tel qu'écrit maintenant. Si on a des estimés sur la résolvante, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça implique ergodicité quantique, au sens unique, enfin QUE en anglais, quantum unique ergodicity, et ça implique des statistiques locales des valeurs propres qui sont le GOE. Alors je vais expliquer ce que tout ceci veut dire. Et tout ça, c'est dans le limite d'une grande dimension. Alors, estimé de résolvante, l'outil de base en matrice aléatoire qu'on utilise est le suivant. On prend un paramètre Z complexe qui a une certaine distance du spectre. La partie imaginaire va jouer le rôle d'une régularisation. Et on regarde l'inverse en tant que matrice. Donc c'est vraiment la fonction Green ou la résolvante. Et avoir des estimés sur cette résolvante, ça veut dire essentiellement qu'on sait que GIJ, qui est un objet aléatoire, puisque H sera une matrice aléatoire, c'est égal à une certaine fonction de Z plus une erreur. Et en fait, cette fonction de Z, c'est fonction de Z sur la diagonale et 0 en dehors de la diagonale plus une erreur. Et on va supposer qu'on peut obtenir des estimés de ce type-là. L'ergodicité quantique, UE, donc ça c'est quelque chose qu'a expliqué évidemment Nalini. Donc on regarde le poids porté par un vecteur propre d'indice K par exemple, sur un sous-ensemble de ces indices. Un ensemble grand I entre 1 inclus dans un n qui est déterministe. Et si le vecteur propre est vraiment occupe tout l'espace, on s'attend à ce qu'il y ait un poids à peu près 1 sur grand n du fait de ma normalisation sur chaque coordonnée. Donc on s'attend à ce qu'on ait le cardinal de I sur n à l'ordre dominant. Et c'est ceci plus une erreur, quelque chose de vraiment petit par rapport à ce cardinal de I sur n, c'est ce que je vais appeler ergodicité quantique unique. D'accord ? Et ça, c'est pour tout cas sur un événement qui a une probabilité vraiment très grande. Événement de probabilité très grande, ça veut dire vous prenez n'importe quelle constante D par exemple, 100 disons, et avec probabilité vraiment très proche de 1 quand la dimension grandit, on a ce type d'estimé. D'accord ? Les statistiques locales des valeurs propres, ça nous dit que si je regarde par exemple le saut entre deux valeurs propres successives, lambda i plus 1 moins lambda i, alors il y a toujours une ambiguïté sur l'échelle dans laquelle cet ensemble vit, mais disons qu'il y a une certaine constante de n, une certaine constante qui va dépendre de n, et après un rescaling, ceci converge en distribution, quand n tend vers l'infini, vers une distribution universelle. Et ceci, c'est pour tout i dans le bulk du spectre, à l'intérieur du spectre. On s'interdit le bord où il y a des échelles différentes. Donc appelons cette distribution le gap du GOE, par exemple. Donc, c'est des informations de plus en plus précises, clairement, quand on a des estimés sur la résolvante, c'est une sorte de moyenne sur K de ce genre d'estimés. La résolvante, quand on fait une décomposition spectrale, nous parle de tous les vecteurs propres en même temps. Mais en fait, on peut améliorer le résultat. En ayant ça comme hypothèse, on arrive à dire des choses individuelles sur les vecteurs propres. Et ensuite, on peut en déduire quelque chose sur les valeurs propres elles-mêmes. Donc c'est un peu ça le schéma pour différents modèles que je vais expliquer. Alors, quel modèle ? Je vais commencer par là. Donc le premier modèle dont je veux parler, qui est le modèle intégrable, pour lequel tous ces résultats sont d'une certaine façon triviaux, c'est l'ensemble orthogonal gaussien. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Définition, c'est que je vais prendre les entrées de ma matrice qui sont toutes gaussiennes et indépendantes à symétrie près. Donc je prends HII après multiplication par racine de n. Alors disons que HII a comme distribution une gaussienne standard divisée par racine de n et fois racine, un certain coefficient racine de 2 et HIJ quand I est plus grand que J qui a une distribution 1, 0, 1 sur racine de n et elles sont toutes indépendantes. Alors c'est le modèle pour lequel on sait juste calculer directement les choses. Pourquoi ? Parce qu'une façon de réécrire ce choix de variable aléatoire, c'est de dire qu'on a une certaine densité de la matrice par rapport à la mesure de Lebesg sur l'espace des matrices symétriques, qui est de la forme suivante. C'est la même chose que dire qu'on a exponentielle moins n sur 4 trace de h carré dh comme ensemble, comme mesure en fait, avec une normalisation pour que ça soit une mesure de proba. D'accord ? Du fait que ce soit la trace d'une fonction de h, en fait, on a invariance par rotation. C'est-à-dire que si on conjugue par n'importe quelle matrice unitaire notre matrice générée comme ceci, elle va être en fait de loi identique. Et on peut par conséquent isoler le comportement des vecteurs propres et des valeurs propres et on peut calculer. Donc c'est le modèle intégrable. Qu'est-ce qu'on sait sur ce modèle intégrable ? On sait à peu près tout ce qu'on veut, hein, essentiellement. Donc, c'est depuis Wigner, dans les années 50, on sait qu'il y a une loi limite pour la mesure ponctuelle portée par les valeurs propres. Ça converge quand n tend vers l'infini. Je vais dire en quel sens. Ça converge vers la mesure que je vais définir par rho semi-cercle de x dx qui est égal à 1 sur 2 pi. D'accord. Avec les échelles que j'ai, avec les normalisations que j'ai choisies, c'est ce qu'on a. Et ça converge en un sens très fort. C'est-à-dire que vous prenez une fonction test là-dessus, la probabilité que ça s'éloigne de la même intégrale de la fonction test contre ceci est vraiment très petite. Donc je ne vais pas préciser davantage, mais ça converge vers ceci. Ça, c'est le comportement macroscopique. Ensuite, dans les années 60, des choses beaucoup plus fines ont été calculées par Gaudin, Meta, Bison, qui consiste à dire que si on regarde maintenant le saut, lambda i plus 1 moins lambda i, et on multiplie par n rho sc en lambda i, par exemple, je normalise mon saut par un facteur n, parce que typiquement j'ai n valeurs propres. J'ai un histogramme de mes valeurs propres qui va ressembler à ce demi-cercle entre moins 2 et 2. Et j'ai n valeurs propres ici, alors il faut bien que je change l'échelle pour avoir une convergence limite. Et le bon changement d'échelle, c'est celui-là. Ça converge quand même tend vers l'infini, en distribution, vers cette distribution gap de GOE, qui a un certain nombre de formules explicites, mais pas suffisamment belle pour que je les écrive ici au tableau noir. Et cette distribution limite, en particulier, ne dépend pas de l'indice i que je vais choisir dans le spectre, pourvu qu'il soit quelque part vers le milieu du spectre et non pas pile au bord. Donc il y a ce résultat-là, il y a celui-ci. Et pour les vecteurs propres, en vérité, les choses sont encore plus simples pour le GOE. Par exemple, du fait de cette invariance par conjugaison unitaire, on sait que la base de vecteurs propres est juste la mesure de R sur le groupe orthogonal dans ce cas-là. Donc, psi 1, psi n, en distribution, la mesure de R sur le groupe orthogonal de taille n. Et par conséquent, on sait tout, en fait. Par exemple, si je prends un vecteur propre psi 1, une façon de le générer, c'est de prendre n variables aléatoires gaussiennes indépendantes et de le renormaliser. Ça donne un point uniforme sur la sphère. Donc, en particulier, on a des résultats du type suivant. Si je prends psi k et que je le projette sur un vecteur q de norme 1, par exemple la première coordonnée de psi k, et que je multiplie par racine de n, alors ça converge en distribution quand n tend vers l'infini vers une gaussienne. C'est ce qu'on appelle la loi de Lévy et Borel. C'est quelque chose qui est connu au moins depuis le début du XXe siècle. Si je prends maintenant l'analogue de cette ergodicité quantique, donc je peux vraiment écrire que la probabilité de la somme des psi k carrés, la probabilité que ceci dévie par plus que n puissance epsilon racine du cardinal de i sur n, ça, c'est plus petit que n puissance moins d. Donc epsilon est une petite constante arbitraire, grand d est une grande constante arbitraire, et pour n'importe quel choix de ces deux constantes, il existe un n0 suffisamment grand, tel que pour tout n plus grand que n0, on a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment que essentiellement ces psi k de alpha se comportent comme des gaussiennes indépendantes. Et ce terme racine, c'est du fait du caractère diffusif dans le terme central limite. D'accord. Donc c'est le modèle intégrable et on sait à peu près tout sur ce modèle. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble orthogonal gaussien? Alors pour tout i, il existe un n0 qui ne va pas dépendre du cardinal de i dans ce cas-là. Pas dépendre du cardinal de i. Et ça ne va même pas dépendre d'un certain delta 0 où le cardinal de i serait plus grand que n puissance delta 0. Oui. Donc maintenant on veut passer à des cas non intégrables. Alors je vais parler d'abord du cas à champ moyen. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble un peu au GOE, mais qui n'est pas un GOE. L'ensemble le plus connu, c'est, disons, Wigner généralisé. Qu'est-ce que c'est? Je décide de remplacer mes gaussiennes, qui sont la source de l'intégrabilité, par d'autres variables aléatoires. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais supposer que si j'appelle sigma ij carré égale à la variance de hij, je suppose que mes variables aléatoires sont toutes centrées. Et je vais me mettre dans un cadre où sigma ij carré est toujours entre deux constantes sur n. Avec cette constante uniforme en n et i et j. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a de l'aléa partout dans la matrice. Je n'impose pas encore de géométrie dans le modèle, ce que je ferai dans la section suivante. Alors, si on a de l'aléa partout dans la matrice, et je suppose aussi qu'il n'y a pas de queue lourde. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer que les variables aléatoires HIJ sont à support compact, pour raison technique. Donc ça, c'est l'ensemble de Wigner généralisé. Un autre...
Indépendante.
Oui, indépendante. Oui. Et H et J, pour tous les I plus grands que J, sont indépendantes. Un autre exemple de champ moyen, c'est le graphe dérégulier aléatoire. Mais ici, je vais simplement regarder le cas où D croît polynomialement avec le nombre de sommets. Plus que N puissance epsilon. pour un certain epsilon arbitrairement petit. D'accord ? Aléatoire, voulant dire la mesure uniforme sur l'ensemble des graphes des réguliers. Alors dans ces cas-là, il y a un théorème, et je vais donner quelques-uns des ingrédients pour prouver ce théorème, mais c'est un théorème qui maintenant est relativement ancien, enfin entre 2010 et 2016. Donc il y a beaucoup de gens qui ont participé, Erdos Yao, Schlein, Nolles, Yin et moi-même. Pour ce type de matrice aléatoire à champ moyen, il y a encore beaucoup d'aléas en fait, et pas de géométrie. Tous les résultats précédents sont vrais. Donc en particulier, on connaît l'universalité des valeurs propres. Les sauts convergent vers ces distributions universelles. Vous pouvez mettre des Bernoulli au lieu des gaussiennes, ça fonctionne. Parce que D croît comme n puissance epsilon, c'est encore le demi-cercle à la limite. Si D était fixé, on aurait les lois de Castelmacquet dont on a ligné par là. On sait aussi que les vecteurs propres sont essentiellement uniformes sur la sphère. En ce sens-là, par exemple, d'ergodicité quantique. On sait aussi que les projections des vecteurs propres sont gaussiennes. On connaît une forme de choses un peu microscopiques sur les vecteurs propres, même coordonnées par coordonnées, on connaît leur distribution. Et ces gaussiennes, en fait, sont d'ailleurs indépendantes quand on choisit des Q différents orthogonaux. Voilà, mais ça, c'est le cas champ moyen. Est-ce qu'il y a une pendule quelque part dans la salle? Ah oui, là-haut, merci. Très pratique. Donc, voilà, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler au-delà du champ moyen. Donc, quels sont les opérateurs aléatoires qui auraient un peu plus de signification physique? Alors, il y en a deux classes principales qui ont été populaires, disons, ces 20 dernières années.
Pourquoi tu l'appelles champ moyen?
Alors, on dit vraiment Minfield en anglais, et champ moyen, c'est au sens où c'est comme si tous les sommets interagissaient entre eux, dans le fond. Voilà. On n'impose pas de conditions géométriques sur on interagit qu'avec ses plus proches voisins, par exemple. Maintenant, je vais mettre de la géométrie. Voilà. Le modèle le plus populaire, c'est le modèle d'Anderson. Mais c'est aussi plus dur. Le modèle d'Anderson, c'est consiste à dire la chose suivante. On se met sur une boîte. Et je me mets dans un cadre périodique, y compris pour les opérateurs qui vont apparaître. Donc, par exemple, en dimension 2, hein, imaginez juste une grille. Et grand N va tendre vers l'infini. Et on regarde l'opérateur H, qui va être le Laplacien discret, plus V. Donc ça, c'est Laplacien discret, le même que celui de Nalini. Où je somme sur tous les voisins de X, les voisins au sens de mon réseau. Et V, c'est les V de I pour tous les I qui sont dans mon réseau, sont IID. IID, vous pouvez les prendre aussi sympathiques que vous voulez, gaussien par exemple, ça ne me dérange pas. Alors, donc c'est un modèle très intéressant. Donc, l'histoire du modèle est assez connue. C'est que avant Anderson, dans les années 60, on pensait, alors disons qu'on met un petit lambda ici, un petit coefficient lambda aussi. Avant Anderson, on pensait que peu importe la taille finie de ce bruit, la phénoménologie n'était pas très loin de ce qui se passait quand il n'existait pas. Bien sûr, si lambda grandit avec n, ça pourrait, mais disons que lambda est fini. Donc on pensait en particulier que les états propres étaient délocalisés. Si on a juste le Laplacien discret, on a des formes discrètes de vagues, et donc délocalisation des états propres. En fait, Anderson a donné des arguments en disant qu'on pouvait avoir le phénomène de localisation d'Anderson, pour lambda fini, disons qu'un peu de bruit, un peu d'impureté dans le milieu rendait les états propres complètement localisés sur un nombre fini de sommets. Après, l'histoire prend une tournure assez amusante, c'est que finalement, le phénomène étonnant que Anderson a exhibé a pu être prouvé par Froelich et Spencer, et après beaucoup d'autres. En revanche, la délocalisation, qui était la croyance initiale, est complètement ouverte. On ne comprend pas du tout le phénomène de délocalisation. On n'a pas de bonnes heuristiques, je pense, pour le phénomène de délocalisation d'Anderson. Donc ça, c'est le premier modèle. Le modèle où on sait faire un tout petit peu plus de choses, c'est le modèle des matrices à bandes. Donc matrice à bandes, qu'est-ce que c'est? On prend le delta qui est 1n puissance d encore une fois, par exemple cette boîte avec de plus en plus de sommets, et on va définir h, i, j. Alors i et j maintenant sont plus des entiers, c'est vraiment des sommets de mon graphe. H, i, j qui va être 0 si la distance entre i et j est au-delà d'un certain niveau, que j'appelle W. Et c'est la distance au sens euclidien, par exemple. Et autrement, je vais le choisir égal à une constante. Une constante dépendant de n et de W, par exemple. Si i moins j... une constante fois une gaussienne, par exemple. Une constante fois n01. Si i moins j plus petit que W. Dans ce domaine-là, des opérateurs qui ne sont pas à champ moyen, le caractère, on se contente tout à fait de travailler avec des gaussiennes, par exemple. Les difficultés pour le moment ne sont pas là. On serait content d'avoir un modèle intégrable. On n'en a pas. On essaie de faire des choses quand même avec les gaussiennes. Donc, je prends des... Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que... Donc, disons que je vais revenir un peu pour faire un graphe un peu plus sympathique. Par exemple, là. Donc, au sens quantique, ce sommet ne va interagir qu'avec ses plus proches voisins jusqu'à distance W. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Imaginez que W soit essentiellement égal à 1, enfin il n'interagit qu'avec lui-même. À ce moment-là, on a une matrice diagonale. Et donc tout est trivial. On a localisation au sens le plus fort du terme. Si W est très proche de N, en vérité, peu importe la géométrie à ce moment-là, chaque sommet interagit avec tous les autres, et on est dans le cas du GOE. Et on se demande s'il y a un W intermédiaire qui va produire une transition entre cette localisation et cette délocalisation. D'accord. Et la chose assez jolie, c'est que W joue le même rôle que l'inverse de lambda dans la correspondance entre les deux modèles. Donc je vais résumer la conjecture entre qui dit ces deux modèles. Évidemment, je ne l'ai pas dit pour le modèle d'Anderson, donc quand lambda est très fort, on s'attend à avoir localisation, bien sûr. Ce terme-là va complètement être dominant par rapport à Laplacien. Et delta très petit, on est en régime perturbatif, probablement la délocalisation demeure. Alors, essayons de voir quelles sont les conjectures et qu'est-ce qu'on sait là-dessus. Donc si... si W est beaucoup plus grand qu'un W critique, je veux dire quels sont les exposants critiques, alors on s'attend à avoir délocalisation et les statistiques des valeurs propres qui seraient le GOE. Si lambda est beaucoup plus petit que le lambda critique, c'est la même chose. Et si W... Alors les paramètres critiques vont dépendre de la dimension. Je vais dire dans une seconde ce qu'ils sont. Si W est beaucoup plus petit que W critique, ou lambda beaucoup plus grand que lambda critique, alors on a des localisations. Localisation. Et alors, que vos...
Pardon ?
Merci. Poisson. Alors, pour D égale 1, le W critique, conjecturellement, vaut racine de N, en termes d'exposant polynomial. C'est la racine qui a une transition. Bon, pourquoi ? C'est pas clair, mais... Et c'est l'inverse de lambda critique. Pour D égale 2, on s'attend à ce que le W critique vaille à la racine de log N, qui... Et on s'attend exactement également à ce que ça soit l'inverse de lambda critique. Et pour D égale 3, on s'attend à ce que le W critique soit d'ordre 1. Et ça, c'est vraiment le cas, évidemment, que tout le monde aimerait prouver. Et la connexion avec l'inverse de lambda critique demeure. Lambda critique est aussi censé être d'ordre 1. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un vrai milieu, même s'il y a des impuretés d'ordre non négligeable localement, on peut quand même avoir conduction. Et ça serait le modèle qui justifierait la conduction. Voilà. Mais il n'y a pas de résultat rigoureux là-dessus. Alors, quels sont les résultats, justement ? Donc, on n'est pas encore aux... Et je ne sais pas si on va y arriver, mais aux exposants critiques. Bon, pour le modèle d'Anderson, comme je le disais, la localisation est comprise dans n'importe quelle dimension. Dans n'importe quelle dimension, si lambda est juste une constante, mais que la constante est suffisamment grande, il y a localisation. Et ça fonctionne ici. Et pour les matrices à bande, qu'est-ce qui est connu ? Donc, le résultat. Donc, il y a des résultats sur la localisation pour les matrices à bande, mais je ne vais pas en parler puisque, disons que ce qui nous motive le plus, c'est le côté délocalisation, puisque là, on ne connaît rien pour le modèle d'Anderson. Donc là, c'est vraiment juste pour la délocalisation. On sait que si W est plus grand que, par exemple, n puissance 3 quarts, on a délocalisation. Plus 0. Donc ce 3 quarts a été obtenu avec Erdos, Yao et Yin il y a quelques années. D'abord, un travail avec Erdos où on avait une constante, et puis ça a été amélioré avec Yao et Yin aussi.
Pensez aux trois résultats de l'introduction qui sont connus.
Oui, compte tenu des cargodicity, GOE et le caractère gaussien des vecteurs propres, ça, c'est bon. Pour les autres dimensions, il y a une certaine constante de D. On sait que c'est vrai aussi. Alors, et cette constante est plus petite que la constante triviale 1. Enfin, c'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont vraiment avec de la géométrie et où ça reste vrai. C'est-à-dire que les interactions sont locales, mais pas encore jusqu'à l'exposant critique qu'on voudrait. Mais il y a des interactions locales qui peuvent générer cette ergodicité quantique et le GOE, etc. Pour des générales. Et il y a un résultat récent de... l'an dernier. Si on prend la dimension plus grande que 7, alors c'est pas d'un point de vue physique, mais bon, alors on prend la dimension plus grande que 7 et D plus grand que n puissance epsilon ou epsilon, W plus grand que n puissance epsilon. Epsilon est arbitrairement petit, fixe. Alors on a aussi la délocalisation de GOE. Ça, c'est un résultat de Yang, Yao et Yin. Alors même si c'est en dimension plus grande que 7, c'est une grosse avancée, parce qu'on arrive quasiment à l'exposant critique. L'idée, c'est que quand on est en très grande dimension, on se rapproche de l'arbre, évidemment. Et sur l'arbre, on peut résoudre ce genre de modèle, et on a des localisations, etc. Mais là, on a quand même un résultat de dimension finie, et on va voir à quel point il pourra baisser la dimension. Donc ça veut dire que vraiment des opérateurs très très locaux génèrent les statistiques à la Dyson.
Ok, donc ça conclut la première partie de cet exposé qui visait à montrer un petit peu quel était le genre de questions qui motive. Maintenant, je voudrais vraiment en venir au titre. C'est pourquoi l'ergodicité quantique, en vérité, est un outil. Et je voudrais expliquer dans la deuxième partie de l'exposé pourquoi, ça, dans tous ces résultats, en fait, la délocalisation au sens ergodicité quantique implique le GOE. De l'ergodicité quantique. D'accord, donc l'outil de base, et c'est une idée qui a été introduite en 2010 pour ce genre de questions, c'est d'utiliser le brownian Dyson. C'est-à-dire que tous ces résultats qui sont statiques, on n'a pas de paramètres temporels pour le moment, vont être prouvés de façon dynamique. Alors, qu'est-ce que le brownian Dyson? C'est l'équation matricielle suivante. Donc, peu importe les renormalisations, c'est celle qui m'arrange. Là. Et c'est une évolution sur l'ensemble des matrices symétriques, ici, qui est stochastique. C'est une équation différentielle stochastique sur un espace de taille n carré, où les BI sont des browniens indépendants, essentiellement, qui préservent le caractère symétrique. C'est-à-dire que on a BIJ de T, pour I plus grand que J, qui sont des browniens IID. Des browniens standards. Et pour BII, il faut diviser par racine de 2. Tout ça c'est des browniens indépendants. Et donc, on a une évolution sur notre matrice. Et le joli schéma est le suivant. Donc c'est un schéma qui date de Erdős-Lein et Yao. Donc, on va voir le temps, ici. Et il va y avoir un temps à partir duquel on sait qu'il y a relaxation locale, en un sens suivant. Donc ici, on a relaxation locale. Pour expliquer ce que ça veut dire, remarquez que quand le temps tend vers l'infini, cette matrice HT va tendre en distribution vers un GOE. Le GOE, c'est la mesure d'équilibre pour cette dynamique. De même que la gaussienne est la mesure d'équilibre pour un Nordstein-Unbeck de dimension 1. Okay. Donc on a relaxation locale au sens suivant. C'est pour tout T qui est plus grand que n puissance moins 1 plus epsilon, l'espérance de n'importe quelle fonction test sympathique de n fois lambda i plus 1 moins lambda i autant T va être égale à l'espérance de la même chose pour le GOE. Donc là, c'est l'espérance quand ma condition initiale, par exemple, je pourrais prendre une matrice de Wigner. Je prends une matrice de Wigner au départ, c'est-à-dire j'ai des entrées indépendantes mais qui ne sont pas gaussiennes. Mais ça va coïncider. Autant T. On sait que quand T tend vers l'infini, ça doit être vrai. Quand T est très grand, la mesure d'équilibre, c'est le GOE, donc les statistiques locales vont converger vers celle du GOE. Mais il se trouve qu'il suffit d'un T de cet ordre-là. Alors pourquoi c'est bien cet ordre-là? C'est parce qu'en parallèle, on a un domaine d'invariance. Donc, d'un côté, on a la relaxation locale, de l'autre, on a l'invariance. Oui, plus erreur, pardon. Merci. Pour l'invariance, en fait, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à n puissance moins 1,5 moins epsilon. Et en vérité, jusqu'à ce temps-là, les statistiques locales, elles, n'ont pas changé. donc la même chose, disons, est égal à l'espérance pour W de ce que c'était au temps 0. Évidemment, quand on prend les deux équations ensemble, on a conclu. C'est-à-dire que ce qui se passait au temps 0 était le même que pour le GOE. Alors l'important, c'est qu'il y ait un overlap. Donc, vous choisissez votre temps favori entre les deux et ça marche. D'accord ? Donc ici, j'ai mon n puissance moins 1 essentiellement, et ici, j'ai mon n puissance moins 1,5. Alors maintenant, je voudrais expliquer rapidement pourquoi on a relaxation à partir de ce temps-là, et pourquoi on a invariance jusqu'à ce temps-là. Okay. Et pourquoi le QE ne rentre pas dans la relaxation, en revanche, dans l'invariance. Pour l'invariance, vous connaissez le QE. Essentiellement, ça vous dit que si vous savez que vos vecteurs propres sont déjà délocalisés, ils occupent bien la masse un peu partout, vous rajoutez du bruit, eh bien, rien n'a changé pour la distribution des valeurs propres. Donc 2.2, je voudrais expliquer la partie relaxation. Donc ça devrait aller assez vite. Je crois que Laszlo en a parlé un petit peu. Il y a une équation, il y a un argument de DP. Comment est-ce qu'on montre ça? Alors, je veux montrer cette équation-là. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment une preuve par couplage. Alors, il y a un lemme important pour le brownien de Dyson, c'est que quand on a cette équation matricielle, elle se traduit en une équation pour les valeurs propres qui est très connue et qui est autonome. C'est que d lambda i de t est égal à un certain terme stochastique avec un brownien, appelons-le b tilde, parce que ce b tilde n'est en vérité pas le même que les b qui sont là. Voilà, donc c'est une famille d'équations différentielles stochastiques, pour i entre 1 et n. Donc le lemme dit que sous cette dynamique pour la matrice, on a cette dynamique pour les valeurs propres. D'accord ? Et les b tilde sont indépendants. Standard moyen. Alors, quand on voit cette équation, si on sait qu'on veut montrer ceci, en fait, l'idéal, ça serait de montrer que si on a le même bruit qui guide l'évolution des lambda i qui commencent à Wigner et des mu i qui commencent à GOE, peut-être qu'en prenant la différence, on va voir que finalement, c'est même pas une convergence en distribution, c'est que une fois qu'on les a couplés de la sorte, ils convergent vers la même chose de façon déterministe, quasi. Donc on écrit cette équation pour, appelons-la étoile, étoile pour GOE et étoile pour Wigner, et on prend la différence. Qu'est-ce qu'on obtient? Moins étoile pour Wigner. Donc ça, c'est la fin du lemme. Alors le lemme, c'est un calcul. Hein. C'est un calcul, et puis il faut montrer qu'il existe des solutions au sens fort, etc. C'est pas évident puisqu'il y a des singularités, mais c'est le cas. Pour GOE, ça nous donne quoi? Ça nous donne que la dérivée en temps de lambda i moins mu i ce qui est bien quand je prends la différence, c'est que les termes browniens s'en vont. on obtient ça. Okay. Donc je mets tout sur le même dénominateur. Bon, voilà, rien de spécial. Et on va essayer juste de développer une heuristique sur quelle est la, qu'est-ce qui se passe à partir de cette équation. Est-ce que je peux vraiment affirmer du coup que je finis par avoir le gap, le saut entre les mu i qui converge vers le saut entre les lambda i. Donc disons que je définis delta i. Donc j'ai envie de me débarrasser du terme avec le Horshein-Hunbeck. Donc je fais juste un changement de variable. Et on obtient que la dérivée en temps de delta i est égale à quoi environ? Ben, en termes d'échelle, ce qu'on obtient, c'est la chose suivante. C'est la somme des delta j moins delta i divisé par j moins i carré. On obtient à peu près cette équation-là. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous qu'on a la loi du demi-cercle. Nos valeurs propres vivent entre moins 2 et 2. Donc typiquement, l'écart entre deux valeurs propres successives, c'est à peu près 1 sur n. Alors, il faut le justifier. Hein. Donc, on peut s'attendre à ce qu'en moyenne, en tout cas, lambda i moins lambda j, ça soit j, i moins j sur n. Pareil pour celui-là. On obtient ce que j'ai écrit. Mais ça c'est égal, très exactement, à n fois. C'est la racine du Laplacien, c'est l'opérateur racine du Laplacien discret. La fonction delta au point i. D'accord. Alors, c'est un opérateur parabolique, c'est-à-dire que le maximum des delta i manifestement va décroître, le minimum va croître, donc on s'attend à ce que sur le long terme, ils deviennent tous égaux. Maintenant, quel est ce long terme? Comme on a un facteur n devant, on s'attend que pour t beaucoup plus grand que 1 sur n, on a déjà un effet de régularisation. Sens suivant, c'est que pour t beaucoup plus grand que 1 sur n, on s'attend à, par exemple à avoir delta i plus 1 qui est égal à delta i de t fois 1 plus un petit taux de 1 par exemple. Mais ça veut exactement dire que les sauts coïncident. Parce que delta i, c'est ça, le même égal à delta i plus 1, on met le mu de l'autre côté, ça veut dire que les sauts coïncident. Donc le Brownian Dyson nous dit, grâce à ce point de vue, qu'au bout d'un certain temps, qui est de l'ordre de 1 sur n, on a eu une invariance. D'accord. Maintenant, dans le temps qui me reste, je voudrais expliquer pourquoi QE nous donne... on a eu relaxation. On a eu relaxation au bout d'un certain temps 1 sur n. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi QE nous donne la partie manquante. Alors, si on commence avec le même B ici, on n'aura pas le même B tilde là-bas. Okay. Mais en fait, on s'en fiche. On peut commencer avec un b tilde pour l'un, et on sait que c'est égal en loi à ce qu'on aurait obtenu avec un... À la fin, c'est les lois qui nous intéressent. Mais si je fais le couplage à cette échelle-là, j'ai un truc déterministe. De quoi on a besoin sur la condition initiale? Alors, on a besoin qu'elle ne soit pas trop mauvaise, au sens suivant. On a besoin que le genre d'argument que j'ai donné là, que lambda i moins lambda i plus 1, c'est à peu près 1 sur n, soit vrai. Déjà dès la condition initiale. Et ça, c'est modèle par modèle qu'on le vérifie. Par exemple, pour les matrices de Wigner, il y a des lois locales qui nous permettent de dire ça, mais c'est des arguments différents. Oui.
Est-ce qu'on peut avoir les autres fonctions de corrélation aussi avec ça?
Ah oui. Donc là, j'ai donné l'énoncé le plus simple, c'est-à-dire que les sauts coïncident, mais on peut obtenir l'universalité à énergie fixe au sens des fonctions de corrélation et des choses comme ça. Oui. Il y a plus de travail pour ça, mais... Ok. Alors 2.3 maintenant. Donc 2.3, invariance. Je voudrais expliquer un lemme en particulier que je trouve très beau, qui date de l'an dernier. Donc l'idée que QE implique le fait qu'il y ait des des statistiques GOE étaient déjà là depuis 5-6 ans, mais ça a été beaucoup simplifié dans un lemme de l'an dernier qui est dû à Su, Yang, Yao et Yin. Et le cadre est le suivant. Alors, on définit MT de Z, c'est juste une notation pour la trace 1 sur HT moins Z. Où HT, c'est ma dynamique par le brownien de Dyson. D'accord ? Donc, c'est vraiment 1 sur N, sin de 1 sur lambda I de T moins Z. Je suppose que j'ai une matrice gaussienne, par exemple. Bon, enfin, je ne devrais pas... Si vous voulez, ok, non, je ne suppose pas ça, je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai un profil de variance. De H au temps 0, qui est la variance de Hij. Je l'écris comme étant Sij. Alors, on suppose qu'on sait déjà a priori quelque chose du type suivant. MT de Z est plus petit que N à la puissance epsilon pour partie imaginaire de Z d'ordre 1 sur N. Donc je me mets à distance 1 sur N de l'axe réel. Pourquoi ? Parce que je veux capturer des statistiques microscopiques. Alors, il faut bien que je me mette à l'échelle microscopique. Et je suppose qu'a priori, par un autre argument, et puis il y a des arguments combinatoires ou de résolvantes pour ça, on sait déjà que cette quantité-là n'est pas dans une échelle bien supérieure à 1. Son échelle naturelle, c'est 1. Parce qu'on a 1 sur N, mais il y a de la distance 1 sur N quand on est à cette distance. Voilà, alors... La dérivée en T d'un produit des parties imaginaires de MT de ZI, où les ZI sont tous satisfaisants parties imaginaires de ZI d'ordre 1 sur N. Alors je prends un produit fini, disons grand M d'entre eux, et je prends l'espérance. Bon, je vais remettre mon espérance avant, désolé. Okay. La dérivée en temps de l'espérance de ce produit. Si je peux montrer que c'est petit, je suis content. Parce que je vais vous montrer l'invariance. Je vais vous montrer que ce qui se passe au bout d'un certain temps T est la même chose que ce qui se passe au temps 0. Donc j'aurais cette dérivée qui est petite. Si je pouvais montrer que ça c'était petit, ça serait suffisant parce que une fois qu'on a ces estimés sur la transformée STGS à échelle microscopique, on peut quantifier le fait que les statistiques locales n'ont pas changé puisqu'elles sont aussi microscopiques. C'est équivalent.
Je...
1 sur N, oui.
Il n'y a pas de log qui se balade,
c'est 1 sur N, là, vraiment. Oui. Et ça peut être borné par des quantités qui font apparaître les termes QE. Donc c'est plus petit que N à la puissance 1 plus epsilon. Le maximum, disons, sur A et alpha. La somme des U alpha de K carré fois S à K moins 1 sur N plus le maximum sur A. Donc ça c'est une somme sur, sur K. Maximum sur A alpha et bêta. Alpha est différent de bêta. Voilà, c'est le résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est exactement un terme, le genre de terme dont on espère qu'ils sont petits quand on a l'ergodicité quantique. On a un vecteur propre d'indice alpha, la somme, la masse donnée par sa norme L2 sur les coordonnées K, Alors la somme est normalisée à 1. Mais quand je prends la somme avec les S à K et moins 1 sur N, j'espère que ça, ça va me faire quelque chose qui est petit. C'est exactement ce à quoi on s'attend. Alors, j'ai mal écrit ça, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est je mets le moins 1 sur N avec le U alpha, c'est moins 1 sur N, comme ça, et c'est le S à K, comme ça. Voilà. Pardon ? Donc U alpha, c'est... donc j'ai un vecteur propre U alpha. D'accord ? Et c'est le maximum sur tous les vecteurs propres possibles. Et donc on s'attend à ce que ça, en moyenne, ça vaille 1 sur N. Imaginez par exemple que S à K, ça soit l'indicatrice d'un intervalle. A est fixé et S à K est non trivial et constant seulement pour K dans un certain sous-ensemble des coordonnées. Alors ça veut dire que la masse L2 donnée par U alpha sur ce sous-ensemble de coordonnées est égale à ce à quoi vous vous attendez si c'est petit.
Si on est dans le cas binaire avec toutes les variances égales, le sous-terme, il est...
C'est ça. Mais l'intérêt de ce lemme, c'est qu'on l'applique aussi aux matrices à bandes, par exemple. Okay. Ouais. Ouais. Donc, dans le cas Wigner, on n'en aurait pas besoin. Dans le cas Wigner généralisé, on en aurait besoin, parce que les S ne sont pas les mêmes. Et dans le cas des matrices à bandes, c'est encore plus drastique que ça, c'est qu'il y a beaucoup de CS qui vont être nuls, et c'est des indicatrices à ce moment-là qui apparaissent, et c'est des ensembles, et c'est des conditions du type ergodicité quantique. Qui est...
Dans le cas Wigner IID dont Laszlo nous a parlé, ce lemme ne dit rien.
En fait, ce lemme dit quelque chose de très bien dans le cas Wigner IID, c'est qu'on a une invariance qui est quasiment gratuite.
D'accord.
Voilà. On a une variance qui est essentiellement gratuite à ce moment-là. Ouais. Ouais. Donc, mais voilà, ça s'applique. Du coup, ça donne l'espoir qu'on peut appliquer pour tout un tas de modèles qui ne sont pas à champ moyen, QE comme critère, pour avoir des statistiques de matrices aléatoires. Alors, j'avais prévu de faire la preuve de ce lemme, mais si j'ai encore 5 minutes, je préférerais peut-être passer juste à donner une idée de comment est-ce qu'on obtient QE lui-même. Donc, je peux faire la preuve de ce lemme, c'est comme vous voulez, ça m'est égal. Donc ce lemme, je peux donner l'idée de la preuve. On a une fonction de la matrice HT. Donc on applique la formule d'Itô. D de ce produit est égal à quelque chose. Ok, on fait Itô là-dessus. Et dans Itô, il va y avoir deux termes qui apparaissent. Il y a le crochet et aussi le crochet du brownien qui va apparaître. Mais il y a aussi le terme Horstein-Hünbeck de ma normalisation du brownien Dyson avec où je vais moins 1/2 de HTDT. Si je fais une intégration par partie gaussienne, je peux rendre ces deux termes dans la même échelle et leur compensation est exactement égale à ça. C'est ce qui se passe. On fait Itô et après une intégration par partie gaussienne.
C'est une intégration totale.
Pardon. Il n'y a pas de grand N ?
Grand M.
Ah, alors c'est pour grand M fixé. Grand M fixé, il y a une constante dépendante de grand M. Mais si on veut prouver les statistiques locales, grand M fixé fini suffit. Oui, oui alors là, on n'utilise pas l'évolution des vecteurs propres dans cette preuve-là. On travaille directement que sur cet objet. 1 sur la matrice moins Z, on fait tout le calcul d'Itô là-dessus.
Ah, on n'écrit jamais les dérivés des vecteurs propres.
Voilà, on va écrire les dérivés des vecteurs propres pour la section suivante. Mais bon, j'ai pas vraiment le temps, mais pour la section...
5 minutes,
ok. Pour montrer QE, maintenant je vais juste donner une idée de comment on montre QE lui-même. Parce qu'on sait que QE donne GOE. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans l'auditoire. Je voudrais aussi donner un exercice. C'est... D'accord. Alors, même pour les autres. essayez de montrer le théorème central limite par cet argument. Vous commencez avec des variables aléatoires que vous voulez montrer que leur moyenne devient gaussienne. Okay. Vous rajoutez un peu de bruit. Évidemment, quand le bruit est grand, c'est déjà, ça devient gaussien, vraiment. Mais en vérité, cet argument marche aussi. Il y a une preuve du théorème central limite comme ça, qui est ni un échange de Lindberg, ni des fonctions caractéristiques. Alors, ce n'est pas très pratique pour enseigner aux étudiants, parce qu'il faut connaître le brownien avant le théorème central limite. Mais bon, imaginons. Alors, pour prouver l'ergodicité quantique. Je peux commencer par expliquer une formule qui est due à Marie-France Bru dans les années 80. Dyson s'est intéressé, une fois qu'on a son évolution matricielle ici, il a fait le calcul, il a obtenu cette évolution pour les valeurs propres. Et ce n'est rien d'autre qu'une formule de perturbation, enfin une formule d'Itô appliquée avec la formule de perturbation des valeurs propres par rapport aux entrées de la matrice. Et ce qu'a fait Marie-France Bru pour des motivations statistiques, c'était de calculer l'évolution des vecteurs propres pour cette évolution stochastique, ce que Nalini disait, l'analogue. Et elle a obtenu l'équation suivante. En tant que vecteur, d psi k est égal à la somme de certains brouniens, kl, lambda k, t, lambda l de t, psi l de t. Il y a une racine. C'est pour l différent de k. Moins 1/2 fois le tout fois un multiple de psi k de t. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez que vous êtes en dimension 3, vous avez 3 vecteurs, et vous avez une base orthonormée qui va bouger avec le temps. Ce vecteur va évidemment bouger dans l'espace engendré par les deux autres. Et il va bouger comment? Avec une vitesse proportionnelle à l'écart des valeurs propres correspondantes. Ok. Ce qui est assez logique, c'est-à-dire que quand on ne peut pas distinguer les valeurs propres, on ne peut pas vraiment distinguer les vecteurs propres non plus. Et ça, c'est aussi un calcul. Alors, il manque un dt. Et les b tilde k, l, ceux-là sont iid brownien. Et en reposant sur cette équation, on peut montrer le lemme suivant. Ça, c'est un lemme avec Yao et Yin, il y a quelques années, qui dit que si on connaît, comme pour la condition initiale de notre matrice, certaines estimées de résolvante, je vais les dire dans une seconde, alors, une fois qu'on a régularisé par cette dynamique, après un petit peu de temps, on a QE. Donc plus précisément, donc si on sait que un sur cardinal de I somme sur pour I dans grand I 1 sur H moins Z II moins M de Z, si on sait que ça c'est plus petit qu'un certain N puissance moins bêta pour eta plus grand que N puissance moins alpha. Alpha et bêta sont des nombres entre 0 et 1. Alors, quand on rajoute de temps, donc ça c'est à temps 0, on suppose qu'on a ça. Ça nous dit quelque chose, une forme moyenne de QE, mais vraiment très faible. C'est-à-dire, c'est même plus faible que, enfin, c'est plus faible que quantum ergodicity. Même. Parce que c'est sur les coordonnées I dans grand I, on connaît quelque chose sur les entrées de la résolvante en II. Alors on a QE pour HT, donc 1 sur cardinal de I, somme des psi k de i pour i dans grand i, moins cardinal de i sur n. C'est plus petit que n puissance moins bêta. C'est psi k de i autant t pour t plus grand que n puissance moins alpha aussi. Donc, je régularise en temps, ça automatiquement, ça améliore le résultat initial en un résultat qui parle de vecteurs propres individuels. D'accord. On connaît la moyenne sur K d'une certaine façon de ces choses-là sans les valeurs absolues. Oui. Ça correspond à connaître. J'ai oublié le carré en revanche, pardon. Non, c'est la moyenne. Ah oui, oui, pardon. Merci. En moyenne, ça vaut 1 sur n. Ah oui, attends. Donc, mais je veux quelque chose qui améliore, donc c'est n puissance moins bêta sur n. Si je mets 1 sur n, c'est une amélioration. Donc, c'est comme ça. Merci. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Donc là, il y a. Pour conclure, c'est pas évident comment utiliser cette dynamique pour montrer des choses pareilles. Parce qu'on a quand même une équation différentielle stochastique en dimension n carré, qui est très singulière. Et tout à l'heure, on a utilisé une méthode de couplage. On avait une dimension n, on commence avec une donnée GOE, on commence avec une donnée Wigner, on prend la différence et les choses finissent par coïncider. Ici, on n'a jamais réussi à faire marcher un schéma pareil par couplage. Donc c'est un problème ouvert, j'aimerais bien faire une preuve par couplage pour ce résultat-là, dire qu'on converge vers la même chose que pour un GOE. Ce qu'on fait à la place, c'est qu'on prend des observables un peu spécifiques et magiques, des certaines projections des ψk, en fait certaines puissances de cette quantité-là, et ils satisfont une équation différentielle autocontenue, et on passe en fait de dimension n carré à dimension n sur le nombre d'observables, et c'est ça qui nous permet de faire marcher les choses. C'est ce qu'on appelle le eigenvector moment flow en anglais. C'est des observables un peu spécifiques qui font ça, mais on n'a toujours pas de preuve, je dirais, par couplage et qui passerait pas par les moments. Voilà. Bon, mais je pense que j'ai fini d'expliquer les idées principales de ce que je voulais dire. Donc, ça dépend de ton modèle matriciel, qu'est-ce que tu sais a priori. Mais par exemple, si tu as une matrice de Wigner, alpha peut être égal à 1, quasiment jusqu'à 1. Tu arrives presque jusqu'à l'échelle microscopique, tu connais cet estimé. Donc, alpha égale 1 égale bêta est le meilleur des cas possibles. Mais il y a une amélioration. Si tu as un bêta sous-optimal, ça marche aussi. OK, merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.